France Culture.
Bonjour Jean-Marie Laclaftine.
Bonjour.
C'est le troisième épisode, l'épisode au cours duquel, après nous avoir parlé des livres que vous écrivez, vous allez nous parler des livres que vous éditez dans la même maison, qui est la maison Gallimard, où vous avez mis un pied en 1981. Mais là, le pied, nous l'avons mis à côté de Gallimard. Où est-on ?
C'est assez émouvant pour moi d'être ici. C'est un concours de circonstances. Nous sommes chez Roger Grenier, chez Roger et Nicole, sa femme. Nicole est morte récemment. Et j'ai accès à cet appartement tant que c'est possible, parce qu'il va être en vente en réalité.
Roger Grenier étant mort en 2017.
Oui, voilà. Et c'est un appartement que j'ai connu, évidemment, du vivant de Roger et Nicole. Et c'est étrange d'être ici. Ça me fait très plaisir parce que nous sommes parmi les livres de Roger qu'il a accumulés pendant toute sa vie. Il y en a vraiment beaucoup. Roger était, oui, un écrivain vraiment formidable. C'est un grand ami d'Albert Camus. Il a participé à la libération de Paris. Il a travaillé à Combat. Et il était journaliste au départ. Et il est devenu rapidement écrivain. Il a eu le prix Fimenat. Et c'est un auteur qui mérite vraiment d'être lu et connu, parce que il est à la fois très simple dans les histoires qu'il raconte, très proche de Tchekhov, parce qu'il avait un amour inconditionnel pour Tchekhov, et il a écrit d'ailleurs un livre magnifique qui s'appelle « Regardez la neige qui tombe » sur Tchekhov. Et il y a quelque chose de très comparable entre les deux dans l'humanité, un caractère d'humanité un peu désabusé, mais très fraternel, enfin un regard porté sur le monde, sur les autres, avec un sourire mélancolique et un peu découragé, mais plein d'amour.
Et vous l'avez connu grâce à votre premier éditeur, Georges Lambrich, puisque Georges Lambrich a édité Les Ombres Murées, votre premier roman. Oui. Et c'est par Lambrich que vous avez connu Roger Grenier chez Gallimard, c'est ça l'histoire ?
C'est-à-dire que je suis venu signer le service de presse de mon premier roman. Moi, j'ai connu Georges Lambrich en premier. D'abord, il m'a fait venir chez Gallimard. Je lui avais envoyé, il était le seul éditeur à qui j'avais envoyé mon manuscrit, et j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive.
Oui.
Et donc, je suis venu le rencontrer, il m'a emmené au restaurant, il m'a consciencieusement saoulé rue des Canettes, je m'en souviens très bien, on a descendu 2 bouteilles de Chianti, et pour moi à l'époque c'était un peu beaucoup, mais pour lui ça allait. Et quand j'ai signé mon service de presse, il y a une salle qui est toujours la même d'ailleurs chez Gallimard au rez-de-chaussée, où on signe les services de presse. Et les auteurs sont là. Et là, quand j'ai signé mon service de presse, Roger est venu me voir et il m'a dit « J'ai lu votre livre, je l'ai aimé. On est du Sud-Ouest tous les deux, donc en gros, c'est la vie et la mort. »
On va boire un coup.
Non, Roger, il buvait pas trop de coups. Et à partir de là, ça a été vraiment... moi, j'ai été très touché de voir ce monsieur qui était plus âgé que moi, beaucoup plus, et donc, que je ne connaissais pas encore en tant qu'écrivain, mais que je connaissais de réputation et que j'ai retrouvé ensuite au comité de lecture. Il se trouve que Nicole, avant de mourir, a souhaité que je sois l'héritier de la bibliothèque. Voilà, donc cette bibliothèque que je connais bien pour l'avoir fréquentée, et ce sont mes livres en quelque sorte. Mais pour moi, ce sont évidemment ceux de Roger. Et c'est sa présence que je ressens quand je suis ici, à travers ces livres, parce que tous les auteurs dont je vois les noms sur les tranches, là, les Camus, Breton, Dos Passos, etc., enfin, Faulkner, tout ça, il les a connus, Brassailles, ce sont des gens qu'il a connus personnellement, parce qu'il a été très lié à l'histoire de la maison Gallimard, et il m'a raconté des centaines d'anecdotes sur tous ces gens, parce que Roger avait ce talent de raconter... de retenir toutes les anecdotes un peu dérisoires de la vie, pas seulement de la vie littéraire, mais de la vie en général. Il en a nourri ses livres, hein, d'ailleurs, et c'était très très drôle. Voilà. Et quand je vois le nom de Faulkner, par exemple, je Je vois Faulkner allongé entre deux banquettes dans une brasserie parisienne parce que il arrivait à l'entrée, il se descendait une bouteille. Ensuite, il était un peu fatigué, donc il s'allongeait entre les banquettes et puis il se relevait pour passer au plat de résistance et entamer la deuxième bouteille. Tout ça, ce sont des anecdotes qui peuvent paraître futiles, mais qui, moi, me touchent énormément.
Alors, on est en 1981 quand vous rencontrez Roger Grenier et que vous entrez, vous mettez d'abord un pied comme auteur, même peut-être deux comme auteur, dans la maison Gallimard. Et vous y restez non seulement comme auteur, Jean-Marie Lacaffine, mais comme éditeur. C'est-à-dire que en 1989, Antoine Gallimard, qui est alors à la direction de la maison Gallimard, vous propose de rejoindre le comité de lecture, fameux comité de lecture, mais tout le monde ne le connaît pas, ce comité de lecture. Ça voulait dire quoi, intégrer le comité de lecture Gallimard?
Le comité de lecture, c'est une instance un peu mystérieuse et surnaturelle qui a présidé aux destinées de cette maison dès sa fondation. Parce que au début, c'était un tout petit cénacle avec Gide, Rivière, etc. et Gaston Gallimard. Et puis, petit à petit, la maison prenant de l'importance, le comité de lecture a intronisé des figures d'écrivains très importants. Enfin, Queneau, Camus, etc., Malraux. Enfin, beaucoup de gens sont passés dans ce comité. C'est une instance olympienne. Voilà.
Qui décide de la oui. vie ou de la mort des livres à éditer. Alors, ou
de
pas,
la mort,
c'est ça
de la mort.
La non-existence. Enfin,
oui. Ben, ils peuvent aller exister ailleurs, mais...
c'est ça.
voilà, c'est dans cette réunion du comité de lecture que se décide la publication ou non des manuscrits que nous avons en lecture, que nous recevons par milliers.
Et quand ils vont ailleurs, puisque c'est la première étape du travail, ou la première définition du travail, du métier d'éditeur, c'est ce que vous avez d'ailleurs appris, Georges Lambrix, c'est de savoir dire non. Mais en laissant la porte grande ouverte.
Oui, bien sûr.
Il faut savoir dire non. Il faut dire non, mais savoir dire non.
C'est vrai que nous passons beaucoup de temps à dire non, à écrire des lettres quand nous le pouvons. On nous reproche beaucoup de ne pas écrire de lettres argumentées pour les refus, mais on ne peut pas le faire parce que on le fait pour certains textes, certains auteurs. Et c'est vrai que c'est la base du métier. Mais la base du métier, c'est avant tout l'amour des textes, l'amour de la littérature. Quand nous sentons... Quand je dis nous, enfin, je devrais dire je, parce que évidemment, à chaque fois, c'est une expérience individuelle et c'est un choix tout à fait subjectif. Mais quand on sent exister un texte, quand on sent qu'une voix se fait entendre, une voix nouvelle, ça suscite en nous, un désir de faire exister le livre.
Et ça arrive souvent, ça?
Non, ça arrive quand même.
Quand même.
Ça arrive quand même. On publie beaucoup de nouveaux romanciers, mais sur la masse énorme des manuscrits que nous recevons, évidemment, non, ça n'arrive pas très souvent. Mais c'est d'autant plus précieux quand ça arrive.
Vous avez écrit, Jean-Marie Lacaffine, un texte qui s'intitule « Première ligne », qui a eu le concours des lycéens en 1999. Et ce texte met en scène un éditeur, peut-être votre double, peu importe. En tous les cas, c'est un éditeur qui décide de créer un club des refusés, on va le dire comme ça, un peu sur le modèle des alcooliques anonymes, pour que des auteurs frustrés de ne pas avoir été choisis par le comité de lecture puissent venir ensemble, se soutenir, s'entraider, raconter leurs difficultés, témoigner de la perversité des éditeurs, etc. Vous y avez déjà pensé dans la vraie vie? À créer un club comme ça?
Oui, oui.
Vous l'avez fait, même?
Moi, j'ai écrit ce livre, donc c'est
80... Ça fait partie des livres très drôles, hein.
Oui. Mais 99, donc j'avais déjà une expérience d'une petite dizaine d'années d'éditeur et avec ce que ça comporte de rencontres très intenses, très, très fortes, enthousiasmante parfois, très violente aussi quand il s'agit de refus. Et j'avais été très marqué par l'arrivée dans mon bureau d'un auteur. J'avais refusé son manuscrit, j'ai entré dans le bureau et il s'est mis en tête de me convaincre qu'il avait écrit un chef-d'œuvre et que je n'avais rien vu. Et petit à petit, il montait en pression et il se mettait à crier, à taper sur le bureau et ça devenait presque incontrôlable. Et les gens autour, dans les bureaux alentours, m'ont dit qu'on était très inquiets, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce type s'est mis à hurler. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, cette activité quand même un peu absurde, qui consiste à s'isoler pendant des mois et des mois, à noircir des feuilles de papier, à inventer des histoires qui n'existent pas, dans l'espoir qu'elles vont être publiées. C'est quand même bizarre que ça puisse mettre les gens dans cet état-là.
Ah non, vous disiez hier, la littérature, c'est la vie.
Voilà, oui. Mais en même temps, en effet, je comprenais très profondément.
En plus, vous en êtes un auteur.
Oui. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait quand même faire quelque chose pour empêcher les gens de se livrer à cette addiction terrible qu'est l'écriture. Et peut-être que si on fondait un club sur le modèle des alcooliques anonymes, ça permettrait de soulager un peu les éditeurs et de libérer les auteurs en puissance de leur esclavage.
Parce que parfois, il faut sauver les auteurs d'eux-mêmes, quoi.
Voilà.
Et donc, pour ça, donner première ligne.
Oui. Voilà.
Mais ça n'a pas donné un vrai club dans la vraie vie.
Non, c'est l'histoire d'un éditeur qui voit arriver un type, un auteur refusé dans son bureau. Mais lui, il ne fait pas comme le mien en vrai, qui tape sur la table. Lui, il sort un pistolet et il se suicide dans le bureau. Et là, ça traumatise complètement ce pauvre éditeur qui décide de fonder ce club. Mais il va avoir beaucoup de mal à libérer les gens.
En effet. Comment on sait quand même, Jean-Marie Laclaftine, qu'on ne rate pas un grand livre ou un grand auteur en devenir ?
On ne le sait pas. En revanche, parce qu'on peut faire des erreurs, enfin des erreurs. Pour moi, ce n'est jamais vraiment une erreur. Si on laisse passer un livre, c'est qu'on ne l'a pas aimé. Donc si on ne l'a pas aimé, c'est qu'on n'aurait pas su l'éditer convenablement. En revanche, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on aime un livre, on aime un auteur, on le suit pendant plusieurs livres et malheureusement, le succès ne vient pas, et ça c'est vraiment terrible. Et à contrario, on peut suivre un auteur pendant des livres et des livres, et qui n'a aucun succès, puis un jour le succès arrive. Mais c'est ça l'édition. L'édition, c'est la patience. C'est-à-dire, il faut avoir le courage d'attendre. Et c'est ce que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent, je ne parle pas de Gallimard, hein, je parle ni des grandes maisons littéraires, mais les éditeurs, souvent, veulent qu'un livre se vende. Parce que c'est un produit. Mais l'édition littéraire, ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire, il faut être capable d'attendre 10 livres, 10 ans, et puis un jour, le succès vient ou pas.
Chaque livre que vous choisissez d'accompagner, d'ailleurs on va venir sur ce mot d'accompagner après, Jean-Marie Laclaftine, mais chaque livre que vous choisissez d'éditer, pour vous, c'est une pierre d'un édifice à venir ou en cours. C'est-à-dire que vous ne publiez pas un livre en tant que tel, en tant que livre. C'est parce que c'est une œuvre en construction.
Bien sûr. Parce que ça n'est pas seulement une question de livre, c'est une question d'aventure humaine. C'est-à-dire que quand un livre me plaît, quand je pense que c'est une œuvre vraiment que j'ai envie de partager avec des lecteurs, je sais que si je m'engage avec cet auteur, ce n'est pas seulement pour un livre, c'est pour la vie, en fait. Parfois, il y a des ruptures, c'est comme la vie amoureuse, ça peut ne pas être éternel. Mais moi, dans mon idée, au départ, c'est toujours ça. Je commence un chemin, un compagnonnage avec un auteur ou une autrice, et c'est dans la durée que ça s'installe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment un auteur évolue, comment il produit un livre, et puis le deuxième va être complètement différent. Je vois Abigail Assor, par exemple, dont on a publié le premier roman qui s'appelait Aussi riche que le roi, qui était un roman qui se passait à Casablanca et qui était une description du Maroc très féroce, satirique, très drôle. Et elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle La nuit de David, mais qui est totalement différent, qui est très poétique, très mélancolique, très contemplatif et très beau. Voilà, moi, j'adore ça, j'adore voir les auteurs évoluer, avancer, changer. Geoffrine Donadieu, qui a écrit un premier livre extrêmement... Une histoire de France qui était vraiment bouleversant.
Puis Prix de Flore 2022 avec Chienne
et
Louve.
Et qui petit à petit a évolué vers un domaine beaucoup plus inventif, plus imaginatif, plus fictionnel. Et c'est merveilleux de voir des gens comme ça, des écrivains qui se déploient, qui découvrent aussi, en étant accompagnés par leur éditeur, qui découvrent les possibilités de leur propre écriture.
Donc quand vous dites oui, dans le comité de lecture, vous, accompagner, c'est la deuxième étape.
Oui, bien sûr. Et après, Évidemment, le métier d'éditeur, ce n'est pas seulement lire des manuscrits, c'est discuter avec les auteurs. Et les discussions peuvent être très, très intenses, très, très dures parfois, parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis, il peut y avoir simplement, de façon très triviale, des histoires contractuelles aussi qui se posent, parce que les auteurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc, ça compte aussi. Mais enfin, pour moi, disons que c'est un peu secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'amener chacun et chacune au meilleur de lui-même. C'est-à-dire, il m'apporte un manuscrit ou une partie de manuscrit, et c'est essayer de voir avec eux comment ça pourrait être encore mieux. Jusqu'où il pourrait aller pour que le livre atteigne son caractère le plus abouti.
Vous intervenez beaucoup sur les textes ?
C'est très variable, ça dépend. Avec certains auteurs, on a juste des discussions sur la construction, sur la façon dont le récit est mené. Donc, j'interviens pas du tout, par exemple, sur les textes de Marine Diaye. Marine Diaye, elle apporte des textes qui sont, sur le plan de la forme, absolument tels qu'elle les désire et tels que moi, en tant que lecteur, je les accepte et les désire aussi. Il peut y avoir des discussions sur la construction, la façon dont le récit est agencé, mais enfin bon. Et puis avec d'autres auteurs, c'est beaucoup plus intrusif. Enfin, intrusif, évidemment, il faut qu'ils soient consentants, mais comme ils savent bien que ça n'est jamais malveillant, je ne cherche pas du tout à m'accaparer le texte, jamais. Moi, je cherche simplement à leur indiquer, à leur suggérer des pistes pour améliorer leur texte et le mener à bout, parce que l'auteur, quand il est dans l'écriture, il est plongé dans une activité complètement solitaire, très obscure et affolante. Souvent, ils sont très, très inquiets, très, très angoissés. Et j'en sais quelque chose, puisque je l'ai vécu moi-même.
Ça vous aide, le fait d'être auteur ?
Oui, je pense. Pour ça, en tout cas, oui. Parce que je prends ça très au sérieux. Quand un auteur me dit « je suis complètement bloqué, je suis paniqué », ça peut être parfois risible, la panique. Nous sommes vraiment très très fragiles quand nous sommes dans des moments d'écriture et je suppose que de l'extérieur ça peut paraître un petit peu ridicule. Bon, c'est pas si grave quoi. Ben moi je trouve ça grave et je le comprends parce que je sais que c'est grave.
C'est pas vous qui vous auto-éditez hein, chez Gallimard.
Non.
Donc vous attendez quoi de votre éditeur, vous comme auteur ?
Mais pendant longtemps, j'ai eu Roger
Grenier,
donc comme éditeur. Mais lui, il était... Enfin, au début, j'ai eu Jean Brix. Et ensuite, j'ai eu Roger Grenier. Et Roger, il était très bienveillant, même plus que bienveillant. Il trouvait tout ce que j'écrivais formidable. Mais, bon, il dit, ah oui, page 133, t'as employé un plus que parfait, là. Peut-être que t'aurais dû mettre un subjonctif. Mais voilà, en gros, ça se résume à ça. Et puis, quand il est mort, moi, je donne mes manuscrits à Daniel Pénac, qui est un excellent lecteur et un correcteur très généreux.
Vous éditez ?
Oui, par ailleurs.
Ah, donc vous avez vraiment une relation, c'est une relation particulière, une relation réciproque.
Et je donne aussi mon manuscrit à Anne Vijoux, avec qui je travaille en tandem chez Gallimard, et qui a vraiment une vue très précieuse, parce qu'elle est très attentive. Quoi. Et Daniel... vraiment, c'était une grande chance pour moi de l'avoir comme lecteur, parce qu'il, même s'il me donne sans arrêt des idées qui sont pénaciennes, donc totalement impossibles à introduire dans mon univers, mais sur le concret des phrases et de la construction, et il est très encourageant et très attentif.
Mais donc, quand vous écriviez dans première ligne, il y a 25 ans, hein, en 1999, l'écrivain est un géant aveugle qui ouvre des routes. Il faut le tenir par la manche, le guider, lui parler, le nourrir, s'inquiéter pour sa santé, préserver sa solitude, le protéger des bruits du monde. Tout ça, vous le confirmez 25 ans plus tard.
Oui. Quand j'ai écrit, c'était un peu rigolard, un peu ironique, mais en réalité, je pense vraiment, oui, bien sûr.
Alors, Jean-Marie Laclaftine, vous avez été l'éditeur d'un très grand nombre d'auteurs et d'autrices. Certaines sont devenues des amis. Pour certains et certaines, l'aventure a été assez incroyable. Pour d'autres, et parfois les mêmes, ils ont rencontré avec leurs livres d'immenses succès. Vous avez cité Marine Diaye, vous avez cité Daniel Pénac. Je vais vous faire une petite liste et puis vous allez choisir ceux ou celles pour lesquels vous aimeriez raconter l'histoire. David Voenkinos, Muriel Barbery. Muriel Barbery, ça doit être une belle histoire parce que son deuxième roman, L'élégance du hérisson, paru en 2006, s'est vendu quelques années plus tard, puisque nous sommes en 2024, on en est à 12 millions d'exemplaires. Mais en 2006, c'était quand même 1 million et quelques d'exemplaires pour un deuxième roman. Ce n'est pas si mal, par exemple. Carole Martinez, Leïla Slimani, Jean-Baptiste Delamo, Daniel Cordier, Jean-Christophe Ruffin, qui est parti.
Ah, ils s'en vont parfois.
Parfois s'en vont. Parfois, vous disiez, c'est comme une trahison, c'est un ami. Donc bon, Jean-Christophe Ruffin est parti chez Calman Levy. D'ailleurs, Muriel Barbery aussi est parti chez Actes Sud. Bon, mais parlons des rencontres avant de parler peut-être des départs. Mais Franz Bartelt, Daisy J ou Akira Mizubayashi?
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque nom que vous prononcez, et puis il y en a beaucoup d'autres que je n'oublie pas, hein, qui sont vraiment là, chaque fois c'est une histoire, et c'est une histoire singulière, c'est une histoire qui est pas forcément amicale, parce qu'on ne devient pas forcément ami avec tous les auteurs qu'on publie, mais qui est de toute façon une histoire très forte et très intense. Muriel Barbery, oui, bien sûr. Ce sont des aventures, parce que on est restés très amis.
Elle vit en Touraine aussi.
Elle vit en Touraine et on se voit très souvent. Enfin, bon, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et je lui ai ressorti d'ailleurs la semaine dernière la note de lecture que j'avais écrite pour son premier roman qui s'appelait Une gourmandise et qui était une note tout à fait enthousiaste qui se terminait par la phrase « Je n'imagine pas que nous puissions ne pas le publier ».
Parce que pour le comité de lecture, vous faites des fiches de lecture.
Oui, c'est très important. La note de lecture, ça c'est le document de base. Dans les archives de Gallimard, il y a des milliers, des centaines de milliers sûrement de notes de lecture qui ont été rédigées par Pollan, par Queneau, etc., etc., par tous les grands noms du comité et qui forment une base de données, une mémoire, mais absolument
malheureusement. Les refuser comme les accepter.
Oui, oui, bien sûr, oui. Et pour chaque roman, il y a plusieurs notes de lecture. Vous savez que la première fois que je suis arrivé au comité de lecture, j'étais extrêmement intimidé, évidemment, en 89, quand Antoine a pris la direction de la maison, Antoine Gallimard. Et au comité de lecture, si je faisais le tour de la table, je voyais Jean Grosjean, Jacques Reda, Milan Kundera, Michel Tournier, Pascal Quignard, Jean-Marie Le Clézio, Claude Roy, etc.
Pas Roger, beaucoup de femmes, Roger Granier.
Oui, il y avait à l'époque.
Là, tout d'un coup, là, ça me paraît évident. Pardon.
Très clair, mais on faisait la remarque beaucoup et ça a été assez progressif, hein, quand même, l'arrivée des femmes. Il y a eu Florence Delay, enfin, il y a eu quelques femmes, Chantal Thomas. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes.
Et donc, vous parliez de la note de lecture.
Et donc, chaque fois, c'est un document extrêmement précieux pour la suite, parce que on va s'en servir pour faire les argumentaires, les quatrièmes couvertures, pour garder la mémoire des manuscrits qu'on a lus, même ceux qu'on a refusés, parce qu'on refuse un manuscrit, deux manuscrits, trois manuscrits à un auteur, puis il se trouve que le quatrième, il est formidable. C'est une base de données extrêmement précieuse.
Mais ça veut dire que vous ne décidez pas seul.
Non. C'est Antoine Gallimard qui décide. C'est-à-dire que nous avons une discussion collective, collégiale, sur les manuscrits. Et Antoine, qui n'a pas lu forcément les manuscrits, enfin la plupart du temps, il les a pas tout lus, mais il écoute et il décide si on le publie ou pas, ou s'il est nécessaire d'avoir des lectures supplémentaires. Du temps de Gaston, c'était la même chose, et Claude Gallimard, c'est pareil. C'est quand même eux qui dirigent le comité de lecture.
Par exemple, avec...
Mais ils font confiance aux lecteurs.
Par exemple, avec Jean-Christophe Ruffin, je crois qu'il y a eu des refus du comité de lecture jusqu'à la publication de L'Abyssin en 1997. Là, vous avez tapé du poing sur la table, non ?
Ouais, c'est encore une histoire, mais ça a beaucoup compté pour moi parce que ça a été très formateur. J'ai commencé à comprendre comment il fallait gérer les stratégies dans le comité. Il m'avait envoyé son premier roman. Il avait écrit deux livres sur l'humanitaire. Le piège humanitaire et l'empire et le nouveau barbare. Il était très cultivé en matière littéraire. Il a envie d'écrire des romans. Il m'a envoyé un premier roman. Je lui ai dit non, là, ça va pas. Vous avez beaucoup de talent. Continuez. Comme il a beaucoup de facilité, 6 mois plus tard, j'avais un nouveau roman que j'ai trouvé absolument formidable, qui était L'Écosse perdue, qui était un roman sur l'humanitaire, les ambiguïtés de l'action humanitaire dans ses rapports avec les pouvoirs politiques en situation de guerre. Je trouvais ça très actuel, magnifiquement écrit, assez ironique et très instructif. Enfin, bref, je trouvais ça formidable. Et bizarrement, alors je suis arrivé, j'étais un jeune éditeur, très jeune à l'époque. par rapport au nom que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, je l'ai défendu. J'étais extrêmement déçu de voir qu'il ne l'avait pas aimé. Et Antoine a donc décidé de le refuser. J'étais furieux et j'ai dit à Jean-Christophe, écoute, on le garde, on remettra le couvert plus tard, je te jure. Et ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle L'Abyssin, qui était un roman historique formidable, qui a eu beaucoup de succès.
Enfin, bah, qui a été oui, concours du premier roman, traduit donc, en ma langue.
Voilà. Il a écrit la suite, Sauvé Isparan. Et là, il me dit, est-ce que je continue à écrire des romans historiques? J'ai dit, non, on va remettre le couvert, tu te souviens? Évidemment, là, il n'était plus question de refuser Les Causes Perdues. Donc, il a été publié, qui a eu le prix Interallié, qui a eu beaucoup de succès. Puis après, il a continué à varier les plaisirs avec des romans historiques et des romans contemporains. C'est ça l'histoire de l'édition, c'est génial.
C'est ça l'histoire de l'édition, mais c'est aussi votre histoire d'éditeur, quand même, Jean-Marie Laclafine, parce que vous êtes aussi réputé, dans ce cadre, pour avoir, et pour continuer de le faire, défriché de nouveaux talents. Les auteurs et les autrices dont on a déjà parlé, mais il y en a d'autres. Enfin, vous avez d'ailleurs parlé aussi de Geoffrine Donadieu très récemment, mais François-Henri Désérable, Jean-Baptiste Delamo, Leïla Slimani, Tristan Garcia, Quentin Lafay, qui est notre producteur camarade, Maria Pourchet. Il y en a quand même beaucoup. Et ça, est-ce que vous qui animez aussi au sein de Gallimard depuis 2012 un atelier d'écriture, est-ce que l'atelier d'écriture, c'est aussi un endroit qui vous permet d'aller dénicher ces nouveaux talents?
Ça n'est pas le but, hein, mais il se trouve que c'est arrivé. J'ai parlé de Geoffrine Donadieu, elle a fait mon atelier. Leïla Slimani, c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire son premier roman. Ça arrive. Mais évidemment, là, c'est un grand plaisir. Oui, non, c'est vraiment, c'est formidable, surtout quand ça se passe comme ça, de façon très, très positive par la suite. Mais le but de l'atelier d'écriture, c'est plutôt d'accompagner des gens dans un processus d'écriture qui peut être très long, très lent. Et voilà, si ça se concrétise par l'édition d'un livre, c'est merveilleux, mais ça n'arrive pas toujours.
Vous disiez au début de cet épisode, Jean-Marie Laclafine, que ce qui vous portait, ce qui vous motivait dans votre métier d'éditeur, c'était avant tout le goût des textes. Et en même temps, j'ai intitulé ce troisième épisode « Le goût des gens », parce que je me souviens aussi d'avoir lu une phrase d'une amie de la famille. Cette phrase, je la cite. « C'est peut-être de cette privation forcée que me vient cette soif jamais rassasiée de rencontres, de découverte humaine, la curiosité excitée et l'émerveillement devant l'autre. » Pour être éditeur, il faut aussi avoir le goût des gens, non? C'est un métier de rencontre humaine.
C'est même un problème pour moi, parce que j'arrive à un âge avancé, et tous les auteurs que j'ai publiés jusque-là continuent à écrire. Je ne peux pas les éliminer. Donc, j'ai essayé d'inventer un roman où un éditeur supprimerait discrètement les auteurs. Mais évidemment, c'est un peu compliqué à écrire, parce que le mobile est un peu trop apparent. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à m'arrêter de lire des premiers romans, par exemple. Il serait sage que je me contente...
Passer au deuxième.
Oui. Donc, non, mais je pourrais me contenter de publier les auteurs que je suis jusque-là. Mais c'est tellement important de découvrir, c'est tellement le sel du travail d'éditeur que je n'arrive pas à m'en passer.
Continuez, de toute façon, c'est peut-être le meilleur de votre temps.
Oui.
C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant. À suivre l'épisode 4, le meilleur de son temps. On aura presque envie de mettre un point d'interrogation. Merci, bonne soirée.
Merci à vous.
Et à demain.